France Culture.
Le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz commémorés demain, désormais musée mémoriel, le lieu accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs, pas toujours conscients de la portée symbolique du site. Inquiétude pour la trêve entre Israël et le Hezbollah libanais. L'armée israélienne, qui devait avoir terminé son retrait du Sud-Liban ce soir, y a tué une personne et en a blessé 17 autres ce matin. Intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée et le M23 soutenu par le Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui. Et puis le rachat de l'École supérieure de journalisme de Paris par un groupe d'investisseurs dont Bernard Arnault ou encore Vincent Bolloré fait des vagues. Il est dénoncé par plus de 650 étudiants en journalisme. Plus d'un million de Juifs y ont été exterminés par les nazis. Les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne, devenu le symbole de l'Holocauste et des atrocités perpétrées par les nazis, seront commémorés demain. Transformé en musée mémoriel, le site attire chaque année près de 2 millions de visiteurs, pas toujours conscients de l'importance du lieu. Le reportage d'Adrien Sarlat.
La sélection de déportés juifs se faisait là-bas.
Raconter l'horreur de la Shoah, elle en a fait son métier.
Et je voudrais vous montrer maintenant une baraque d'habitation. D'accord ?
Dorota est guide dans le plus célèbre des camps d'extermination nazis depuis plus de 27 ans. Aujourd'hui, le nombre de visiteurs annuels est 4 fois plus élevé qu'au début de sa carrière. Des visiteurs de moins en moins respectueux au fil des ans.
Maintenant, les jeunes connaissent peut-être moins bien cette histoire. Ma génération la connaissait grâce aux parents, grands-parents, tantes, oncles, survivants. La génération de mes enfants la connaît grâce à des livres, que à des livres. Très peu connaissent des survivants.
Certains touristes profitent de leur week-end à Cracovie pour faire un crochet à Auschwitz, parfois sans même avoir conscience du caractère très solennel du site. Thomas Schmiraldo et ses équipes y proposent des visites guidées dans 20 langues différentes et sont chargés de réprimander les touristes les moins respectueux.
Nous devons sensibiliser nos visiteurs sur le fait que certains comportements sont inappropriés, voire inacceptables. Ça peut aller de la photo que l'on juge inopportune au graffiti dans les baraques de Birkenau, en passant par les vols. Parfois, on a des gens qui essayent d'emporter un bout de barbelé avec eux.
Mais le musée se veut rassurant. Ces comportements problématiques ne concerneraient aujourd'hui qu'une infime minorité de visiteurs.
Demain, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, une cinquantaine de survivants d'Auschwitz se réuniront sur le site pour une cérémonie officielle aux côtés de dizaines de dirigeants, dont le roi Charles III, Emmanuel Macron ou encore le chancelier et le président allemand. L'Allemagne, où des dizaines de milliers de personnes se sont réunies hier à travers tout le pays pour manifester contre l'AFD, des rassemblements pour appeler à faire barrage au parti d'extrême droite à un mois des élections législatives. L'AFD, qui a reçu hier le soutien d'Elon Musk, le milliardaire américain, participant par vidéoconférence à un meeting électoral du parti, a appelé ses partisans à être fiers d'être allemand. L'AFD qui incarne, selon lui, le meilleur espoir pour l'Allemagne. Direction le sud du Liban maintenant, où le cessez-le-feu conclu le 27 novembre est désormais bien incertain. Ce dimanche devait marquer les 60 jours d'une trêve censée mener au retrait du Hezbollah et de l'armée israélienne du sud du pays. Mais Tel Aviv a annoncé retarder son départ et la situation est extrêmement tendue. Une personne a été tuée et 17 autres blessés ce matin par l'armée israélienne alors qu'elle tentait, comme des centaines d'autres, de regagner leur village. Arthur Saradin est au sud Liban. Reportage.
Abou Youssef a 70 ans. Les gravats devant lui, ce sont ceux d'une maison où il avait trouvé refuge au début de la guerre. Son village d'origine, Markaba, se trouve à quelques kilomètres à peine.
Cela fait un an et quatre mois que l'on vit loin de chez nous. Nous avons perdu beaucoup de vies. Ce n'est pas pour qu'Israël reste indéfiniment sur nos terres. J'espère qu'il y aura un consensus vers la paix.
Mais aujourd'hui, Abou Youssef ne pourra pas retrouver son village. L'armée israélienne a annoncé reporter son retrait du sud Liban. Un peu plus à l'ouest, dans la ville de Tyr, Hoda habite près de la côte. Son mari a été tué dans le bombardement de leur maison, survenu après l'annonce de la trêve.
Le cessez-le-feu n'a pas arrêté les bombardements. On s'est presque habitué à tout ça maintenant. Nous continuons à descendre sur nos plages malgré les tirs israéliens et nous resterons coûte que coûte.
Dans le reste de l'immeuble où elle s'est réfugiée, les habitants s'interrogent. Abou Khalil, la soixantaine, est à son balcon. Il s'inquiète des tirs israéliens qui se sont multipliés ces derniers jours.
Ceux qui pourraient les arrêter sont les puissances étrangères. Il faudrait que le tracé de la frontière soit clairement établi, que l'on laisse l'État libanais suffisamment armé pour assurer sa défense. Sinon, les bombardements sont condamnés à se répéter.
Dans un appel téléphonique avec Emmanuel Macron, le président libanais Joseph Aoun a demandé à la France d'intervenir pour faire appliquer l'accord de cessez-le-feu.
À Gaza, la trêve est également très fragile, même si les échanges entre otages israéliens et prisonniers palestiniens se sont poursuivis hier, dans le cadre d'un plan de paix consistant, je cite, à faire le ménage dans le territoire palestinien. Le président américain Donald Trump propose d'envoyer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Première tension entre les États-Unis et le Brésil depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Le gouvernement du président Lula réclame des explications à Washington pour le traitement qu'il qualifie de dégradant de migrants illégaux brésiliens lors de leur expulsion par les États-Unis. France Culture, 9h05, après plusieurs jours de combats meurtriers dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée et le M23, groupe armé anti-gouvernemental soutenu par le Rwanda, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui. Ce conflit fait craindre un embrasement régional. Selon l'ONU, le M23 et 3 à 4 000 soldats rwandais encerclent désormais presque complètement la capitale de la province du Nord Kivu, Goma, qui compte 1 million d'habitants et au moins autant de déplacés. Les précisions de Paulina Zidi à Kinshasa.
Autour de la ville de Goma, les affrontements se déroulent sur deux fronts, au nord et à l'ouest. Sur ce deuxième front sont engagées des forces régionales, celles de la Communauté d'Afrique australe et internationales, celles de la MONUSCO, la mission des Nations Unies, avec des bilans assez lourds. L'armée sud-africaine évoque 9 morts, l'armée malawite annonce que 3 de ses soldats ont été tués. La MONUSCO reconnaît un décès dans ses rangs. Le Rwanda est déterminé à s'emparer de la ville de Goma, a déclaré le porte-parole des forces armées congolaises. Le général Sylvain Ekenge assure que les forces congolaises sont déterminées à repousser l'ennemi. Face à l'ultimatum de 48 heures donné par le M23 au FARDC, le général a répondu avec fermeté « c'est maintenant que la guerre commence ». Kinshasa, qui a aussi annoncé samedi soir rappeler ses diplomates en poste à Kigali, dans une lettre adressée par le ministère congolais des Affaires étrangères à l'ambassade du Rwanda, la RDC donne aux autorités rwandaises un délai de 48 heures pour cesser toutes leurs activités diplomatiques et consulaires à Kinshasa.
Pauline Nazili de RFI à Kinshasa pour France Culture. Les Biélorusses appelaient aux urnes aujourd'hui à un scrutin joué d'avance. Le président Alexandre Loukachenko est assuré d'être réélu pour un 7e mandat consécutif à la tête de cette ex-république soviétique frontalière de la Russie et de l'Ukraine. En plus de 30 ans de pouvoir, il a éliminé toute forme d'opposition et aligné son pays sur Moscou jusqu'à faciliter l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Une tribune synonyme d'inquiétude à présent publiée dans le Nouvel Obs, elle est signée par plus de 650 étudiants en journalisme qui dénoncent le rachat, il y a 2 mois, de l'École supérieure de journalisme de Paris par un groupe d'investisseurs, dont Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, la famille Aberdasso ou encore Vincent Bolloré. Comme a pu le constater Héloïse Roger en rencontrant certains signataires étudiants de différentes autres écoles de journalisme, ce rachat passe très mal.
Dans la tribune, les étudiants dénoncent un raid sur la plus vieille école de journalisme au monde.
Aujourd'hui, moi, je suis en colère.
Léo fait partie de ceux qui ont coécrit cette tribune.
Qu'on se demande, en fait, un tout petit peu pourquoi ces milliardaires y rachètent cette école. C'est pas pour la sauver, pas non plus pour sauver les étudiants à qui on promet des locaux flambant neufs et des stages. Moi, derrière ce geste, je vois surtout des milliardaires qui se protègent en formant des journalistes et qui ne pourront pas enquêter sur eux. Et je vois des hommes conservateurs qui veulent mettre en place un projet politique réactionnaire.
Dans son communiqué pour annoncer le rachat, l'ESJ Paris a précisé qu'elle allait se spécialiser dans le domaine de l'économie. Pour William, l'objectif est clair, c'est d'accueillir
uniquement des journalistes prêts, formés à défendre une idéologie néolibérale économique, justement pour défendre les intérêts économiques de ces grands patrons.
La crainte d'un formatage des futurs étudiants, c'est ce qu'évoque aussi Ludmila.
Quand on entre en école de journalisme, on est quand même face à une certaine pluralité. On arrive tous avec des ambitions différentes, des parcours différents. On a une diversité de points de vue. Et en fait, dans cette école-là, clairement, on a peur que ce ne soit pas respecté.
Et que ce soit la même chose une fois sortie d'école, Ernestine redoute un favoritisme.
Les journalistes qui seront formés dans leur école seront peut-être même plus facilement embauchés dans les médias qu'ils possèdent. Donc déjà, ça réduit énormément la possibilité, la diversité qu'il y aura dans ces médias. Parce qu'ils ont tout intérêt à embaucher un étudiant qui a appris exactement vraiment à faire ce qu'ils ont envie de faire que quelqu'un qui ne vient pas de leur école et qui du coup va potentiellement travailler différemment.
Pour certains, la signature de cette tribune est aussi une manière de se faire entendre pour éviter la généralisation de ce rachat et appelle également à un sursaut des journalistes et des médias.
Le temps aujourd'hui agité à l'ouest avec de la pluie et de forts coups de vent. 9 départements du Finistère, Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange pour vent ou cru. Plus calme sur le reste du pays. Les températures au meilleur de la journée, de 9 à 19 degrés du nord au sud.